Bienvenue parmi nous. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Tout le monde, le Seigneur vous bénisse parmi nous. Pour ceux qui viennent pour la première fois, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous voir. Ça nous fait bien plaisir. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte, c'est une date dans l'histoire de l'Église. C'est comme la Pâque est une date dans l'histoire de l'Église, la Pentecôte est aussi une date. Pour beaucoup de chrétiens, ben voilà, on se souvient de la Pentecôte. Mais Pentecôte, je vais vous faire un petit peu de... Hein, vous rappeler, c'était une fête juive, d'abord. C'était la fête des prémices, c'était la fête des moissons. C'était ce jour-là, Dieu avait dit, vous compterez 50 jours. Et voilà, c'est pour cela qu'on l'appelle Pentecôte. Pentecôte, c'est 50 jours. Et l'Église, la première Église, disons, c'était un groupe de personnes qui avaient assisté à la crucifixion et à la résurrection du Seigneur Jésus. Ils étaient 120 réunis dans une grande salle, parce que 120, hein, il faut les faire tenir dans une, hein, c'est pas dans une, dans le salon de monsieur un tel, mais 120 personnes se retrouvaient réunies dans la prière. Il y avait des hommes, il y avait des femmes qui étaient là. Et puis le Saint-Esprit est arrivé d'une manière spéciale. Jamais le Saint-Esprit n'était venu de cette manière-là. Le Seigneur Jésus a dit qu'il avait fait la promesse, il avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez obtenu la promesse du Père. Et la promesse du Père, c'était la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est arrivé et il a rempli chacune des personnes qui étaient présentes ce jour-là. Les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Église du Dieu vivant a commencé. C'est l'Église, le corps de Christ. Souvenez-vous toujours de votre Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et nous sommes chacun membres de ce corps. Nous sommes membres les uns des autres. C'est quelque chose, c'est une gloire, hein, c'est quelque chose de merveilleux. On aura l'occasion à d'autres moments d'en parler. Mais ce qui est important, c'est que nous fêtons un jour, hein, on se souvient. Bon, c'est vrai que on n'avait pas prévu et on n'a pas l'habitude de faire quelque chose de spécial ce jour-là. Mais il y avait un sujet qui commençait à me travailler un petit peu, et c'est cette question de la Pentecôte et du jour où le Saint-Esprit est venu. Et c'est vrai que nous ne mettons pas l'accent sur le Saint-Esprit. Il y a des mouvements qui mettent beaucoup l'accent sur le Saint-Esprit. Et nous, comme par réaction, eh bien, on ne met pas assez l'accent sur le Saint-Esprit. Alors on a comme une timidité, une tiédeur à parler du Saint-Esprit. Mais nous avons tort. Parce que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit est absolument nécessaire dans notre vie chrétienne et dans l'Église, puisque c'était la promesse du Père que le Saint-Esprit devait venir le jour de la Pentecôte. Et il y a en effet une venue du Saint-Esprit. En effet, à un moment, il est venu. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'Église est devenue puissante et forte. Et la première prédication, c'est Pierre. Le premier qui a prêché sous la puissance du Saint-Esprit, il a prêché et ce jour-là, beaucoup de personnes, plusieurs milliers de personnes se sont converties, ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Que devons-nous faire pour être sauvés? Que devons-nous faire? Et Pierre leur a parlé et ce jour-là, eh bien, ils étaient sauvés. Le nombre des disciples est devenu encore plus grand. Et puis ensuite, il y a eu d'autres. Et jusqu'à présent, l'Église grandit, elle a grandi, elle a atteint jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes ici représentés, hein, par plusieurs nationalités et même ethnies différentes et même races différentes. Et je crois que c'est une grande bénédiction de voir combien le Saint-Esprit est allé toucher des âmes jusque dans les endroits les plus éloignés de la terre. et je vois vos visages, mes frères et sœurs, et je me réjouis. Je me réjouis de ce que vous soyez mes frères et sœurs, et que du bout de la terre, vous puissiez venir dans notre Église, parce que le Saint-Esprit un jour a touché votre cœur et vous a dit, tu es perdu. Tu as besoin d'être sauvé, d'être né de nouveau, d'être réconcilié avec Dieu. Et cette voix, vous l'avez entendue et vous l'avez acceptée. Vous êtes né de nouveau, vous êtes réconcilié avec Dieu. Et pour moi, ça, c'est un grand privilège. Je vous vois et je vous aime. Sans Christ, je vous aime. Parce que vous êtes mes frères et mes sœurs en Christ. Nous faisons partie de la même famille. Nous avons des liens familiaux charnels qui ne sont pas aussi forts que les liens familiaux spirituels. C'est dans l'Église, j'ai de vrais frères et de vraies sœurs en Christ. Et il est vrai que j'ai connu des personnes qui n'avaient pas de parents. Voilà, parents inconnus. Je me rappelle d'une jeune fille en particulier. Ses parents l'ont amenée à ce qu'on appelle l'assistance publique et ils n'ont pas voulu même que leur nom soit mentionné. Bon, bien sûr, moi, si j'avais fait une chose pareille, j'aurais honte, hein. Je n'aimerais pas que mon nom soit mentionné aussi. Mais ils ont amené leur fille, un bébé. Et de famille en famille, cette petite fille est arrivée, tant bien que mal, à une vie à peu près normale. Voilà. Et puis un jour, elle s'est convertie. Elle est née de nouveau. Et elle est entrée dans la famille de Dieu. Et elle avait là des frères, des sœurs, des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères, des oncles, des tantes. Et brusquement, elle a trouvé une grande, grande famille. Et quand on est étranger et que l'on arrive de notre pays, on ne connaît pas toujours la langue et on se retrouve dans une église. Et vous avez brusquement des frères, des sœurs. Et vous êtes, hein, Stéphane est allemand, et puis il y a Centrafrique, Togo, et bon, j'en passe, Chine, et il y a des Japonais, il y a des Philippins, et puis brusquement, vous vous retrouvez dans une famille, et puis notre frère Kabil aussi, vous se retrouve dans une famille. Vous avez des frères et des sœurs. Nous sommes enrichis les uns par les autres, par des liens familiaux. Pesez bien ce que cela veut dire que d'avoir une famille en Christ. Souvenez-vous que c'est un grand privilège, c'est une grâce immense de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est le même Saint-Esprit qui est en moi. Et je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui m'a donné, de même qu'à vous, et qui fait que nous avons des liens les uns et les autres, et les uns par les autres. Ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est quand quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme son sauveur. Quand il est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Voilà, un jour, on accepte Jésus-Christ comme son sauveur. On reconnaît que l'on est pécheur, que l'on est perdu, que l'on a fait des actions que Dieu condamne et que l'on n'est pas en relation avec Dieu, que Dieu n'est pas notre ami. Il veut nous sauver, mais nous ne voulons pas forcément toujours être sauvés. Mais un jour, eh bien, nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur. On reconnaît nos péchés, on reconnaît que nous sommes perdus. Et on dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je te demande de me faire grâce, d'user de pitié, de miséricorde envers moi. Et j'accepte que Jésus-Christ soit mon sauveur. Et ce jour-là, eh bien, nous sommes sauvés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. C'est quelque chose, vous savez. Et ce Saint-Esprit, eh bien, témoigne à notre esprit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ce jour-là, eh bien, il y a ce témoignage intérieur. Et je peux vous dire, je suis sauvé et réconcilié avec Dieu, mais je ne connais pas tout, hein. Je sais pas mal de choses, mais peut-être que même je ne connais pas l'essentiel. Mais il y a enfin au fond de moi quelque chose qui me dit, tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu es en paix avec Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit, parce qu'il parle et il dit quelque chose. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas la personne qui se manifeste le plus. Il manifeste Christ. Le Seigneur Jésus a dit Quand il sera venu, eh bien, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est donc il y a la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Si vous êtes réconcilié avec Dieu, si un jour vous avez fait la paix avec Dieu, si le sang de Jésus-Christ a effacé vos péchés, alors vous pouvez être certain d'une chose. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Mais la plupart des chrétiens ne vivent pas sous l'influence du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en nous, mais on ne le laisse pas agir la plupart du temps. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui en parlent tout le temps, hein, qui parlent tout le temps du Saint-Esprit, qui parlent toujours comme si le Saint-Esprit leur disait, etc. Et il y a même des exagérations et des choses que, bon, nous n'acceptons pas. Mais néanmoins, comme je vous ai dit, nous n'en parlons pas assez. Et nous ne sommes pas assez conscients de la nécessité du Saint-Esprit dans notre vie. Et que le Saint-Esprit conduise notre vie, qu'il dirige notre vie. Voilà. Alors c'est aujourd'hui ce dont je voudrais vous parler. Et on va lire un passage biblique qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 5. Et nous allons lire les versets 15 à 21. Alors, Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 21. Même à 14, je voulais vous faire lire le 14 aussi. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est le de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et c'est très important parce que dans chapitre 5 et même chapitre 4, à partir du verset 17, je ne vous ai pas fait lire tout ce passage, mais ça aurait été bon de le lire, hein, et considérer que ce que je vais vous dire commence au verset 17 du chapitre 4. C'est-à-dire que Paul, quand il parle aux Éphésiens, leur dit, voilà, vous aviez dans le monde, quand vous étiez inconvertis, une certaine conduite, mais maintenant, votre conduite doit être différente. Et il y a ce que fait le monde et ce que vous faites. Et ce sont deux choses différentes. Si le monde se réjouit de certaines choses, si le monde trouve son espérance dans certaines choses, votre vie et votre espérance sont ailleurs. Il y a une manière de vivre du monde et une manière de vivre qui est chrétienne. Alors, nous sommes dans le même corps que les gens de ce monde, hein. Nous avons besoin de boire, de manger, de pas mal d'autres choses, dormir, et faire de l'exercice, etc. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Mais ces choses ne doivent pas remplir notre vie. Ce qui remplit notre vie, c'est autre chose. C'est donc, si le monde agit d'une certaine manière, nous, eh bien, nous agissons d'une autre manière. Ce n'est pas que nous voulons être contre le monde, ce n'est pas que nous voulons faire les choses différentes du monde, mais c'est qu'il y a quelque chose en nous qui fait que nous choisissons des choses différentes de ce monde. Des choses qui nous motivent, qui nous prennent, d'autres désirs. Quand j'étais inconverti, mes parents étaient chrétiens. Et alors, j'étais dans une famille chrétienne. J'avais une vie morale qui était respectable. Les gens, même les inconvertis, disaient que j'étais différent. Donc ça, j'étais content. Mais néanmoins, je n'aimais pas aller au culte. Je n'aimais pas lire la Bible. Je n'aimais pas prier. Ça, je peux vous dire, c'était pas des me motivait pas du tout, hein. Et même, il y avait un verset biblique que j'avais tourné dans mon sens, c'est-à-dire que ce verset dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je me disais, un jour ailleurs vaut mieux que 1000 jours ailleurs vaut mieux qu'un jour dans tes parvis. Alors j'avais tourné la chose, je me disais, je préfère ne pas être à l'église, je ne veux pas être, et je ne m'y sentais pas à l'aise, j'aimais pas, c'est tout. Alors j'y allais par obéissance à mes parents, et puis obéissance, et puis obligation, hein, mais ça ne se discutait pas, ça. On y allait, et puis si j'aurais pas pu dire, oh, je n'ai pas envie d'y aller. J'aurais pas aimé ce qui serait arrivé après. Donc, je ne disais rien, j'y allais. Mais j'y allais à contre-cœur. Par contre, un jour, Jésus-Christ est devenu mon sauveur. Je suis né de nouveau. Et je peux vous dire, j'étais devant la porte de l'église et j'attendais qu'elle s'ouvre. Et j'attendais une heure qu'elle s'ouvre. Parce que j'étais une heure en avance. J'étais là. Et je me rappelle, il pleuvait, hein, parce que c'était des jours de pluie. Hein. Il pleuvait, et j'étais debout comme ça, et collé le dos à la porte, et l'eau tombait devant moi. Et bon, j'étais plus maigre qu'aujourd'hui. Hein. Donc, je n'étais pas mouillé. Aujourd'hui, je serais peut-être un peu mouillé. Mais j'étais comme ça, et j'attendais. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait des cordes. Hein, et j'attendais que la porte s'ouvre. Et quand elle s'ouvrait, eh bien, j'y étais. Hein. Et je me rappelle même un après-midi, un dimanche après-midi, il n'y avait personne dans la salle, personne. Et j'étais assis et j'ai lu le livre des Proverbes, tout entier, dans l'après-midi. Et je ne m'arrêtais pas de lire la Bible. Et je ne priais, et je cherchais le Seigneur, et je voulais marcher avec lui. J'étais passé de la mort à la vie. J'étais une nouvelle créature. Les choses étaient changées. Ce que j'aimais dans le monde, il n'y avait pas beaucoup de choses que j'aimais dans le monde, mais néanmoins, il y avait des choses que j'aimais. Je ne les aimais plus. Elles ne me passionnaient plus. Tandis que les choses qui ne me passionnaient pas, eh bien, brusquement, elles sont devenues pour moi toute ma vie. On m'aurait dit, mais tu vas passer un après-midi à lire la Bible. Ben, j'aurais dit, alors ça, c'est pas possible. Je n'ouvrais jamais la Bible. Tu vas l'ouvrir pour passer un après-midi, hein, c'est pas possible. Eh bien, c'est devenu comme cela. Vous voyez, il y a quelque chose de différent qui est en nous. Quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu en nous. Et il donne soif pour des choses nouvelles. Les choses qui ne nous intéressaient pas, elles deviennent importantes pour nous. Et alors, quand on est de nouveau, il y a ces choses que l'on aime, hein, qui nous saisissent. On a envie de les vivre. On ne quitterait pas l'église, hein. On chante les cantiques, on aime chanter les cantiques. On marche dans la rue et on a un cantique qui est dans notre esprit. Et même parfois, le matin, on se lève et il y a un cantique. On se lève, il y a un verset biblique. Il y a même un sujet de prière, une personne pour laquelle nous avons envie d'intercéder. Cette personne-là, elle est sur notre cœur. Et même parfois, on se réveille la nuit et puis, ah, il y a un tel, il a besoin de prière, ce frère. Hein. Et on prie pour lui. Votre vie, c'est tout un engagement. Et puis, avec le temps, les choses commencent à diminuer. On est moins motivé. Cette flamme a tendance à baisser. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. On s'est endormi. On commence à s'endormir. Il y a des choses qui, bon, on est grignoté par le monde. Et ces choses-là ne nous intéressaient plus. Puis on s'est dit, tiens, il y a un bon film à la télévision. Il y a une bonne chose là que. Et puis une chose qui gagne ça, petit à petit, une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Je vous dis, c'est pas mauvais, hein, mais ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas du péché, mais ce n'est pas ce qui est meilleur pour nous. Et alors, ces choses-là, on les laisse nous gagner. Et elles appesantissent notre cœur. Et c'est ce que Pierre dit. Ne vous laissez pas appesantir par le manger, par le boire et par les soucis de la vie. Parce que toutes ces choses, elles ont tendance à nous faire baisser, à nous saisir, à nous prendre. Et quand elles nous ont saisis, eh bien, notre amour pour le Seigneur diminue. Nous n'avons plus la même motivation. Nous ne sommes plus aussi attirés par les choses de Dieu. Alors, il n'y a pas un péché scandaleux, hein, dans notre vie. Non, non. Mais on a diminué. Voilà. Et alors, c'est ce que Paul dit, c'est au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, il y a des chrétiens qui attendent. Alors, il y a même des groupes chrétiens qui ont des réunions d'attente. Voilà, vous avez une réunion d'attente, et tout le monde est là dans la salle, et attend. Et on attend le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu ne nous donne jamais un enseignement comme cela. La première église, oui, elle attendait la promesse du Père. Mais c'était la première église, c'était la venue, et quand le Saint-Esprit est venu dans l'église, il n'était pas remplissait pas les personnes. Et puis, un jour, il est venu et il a rempli ces personnes. Ces personnes attendaient quelque chose qui était promis et ils devaient l'attendre. Et le Seigneur Jésus a dit, attendez-le. Mais une fois que nous sommes sauvés, rentrons dans l'église où ce qui est promis est déjà donné. Et nous n'avons plus à l'attendre parce que nous l'avons déjà reçu. Quand nous naissons de nouveau, quand nous sommes sauvés, eh bien nous recevons le Saint-Esprit. Il est là. Nous n'avons pas besoin de l'attendre. Il est devenu, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire que nous devons lui donner la place qu'il doit avoir. C'est dans un temple, il y a un Dieu. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de mettre Christ comme Dieu de notre vie. Quand il sera venu, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit, son rôle, c'est de mettre Jésus-Christ comme Dieu de notre vie, comme celui qui règne, comme le roi de notre vie, comme le Dieu de notre vie. Donc quand nous sommes grignotés, comme je vous ai dit, hein, par le monde, par des choses qui ne sont pas condamnables, mais qui sont inutiles, hein, eh bien, celui qui prend la place de notre vie, c'est autre chose. Ce n'est plus Christ. Christ ne domine plus notre vie. Alors quand Christ ne domine plus notre vie, nos motivations pour les choses spirituelles diminuent aussi. C'est au fur et à mesure que Christ diminue, alors il y a des choses qui prennent de plus en plus de place, de plus en plus d'importance. Et elles deviennent même des montagnes, hein, des choses si grandes, et ne peut plus s'en passer même. Et alors, c'est pour cela, je vous dis, il n'y a pas de réunion ou d'attente. La parole de Dieu nous dit, c'est pour cela il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Alors il y a des personnes qui attendent le réveil. Je vais vous dire, c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. On n'attend pas le réveil. On est réveillé. On se réveille. On se lève. Et on dit, maintenant, les choses vont changer. Dans ma vie, ça va changer. Ça va être différent. Et on prend les dispositions pour que ça soit différent. On s'est endormi dans une certaine habitude, une certaine routine, parce qu'on a pris certaines choses, mais on se dit non, maintenant je me lève, je fais changer les choses. Il y a un moment, une réaction mûre. Une réaction adulte. Et on dit, maintenant, je reviens aux choses que j'ai laissées, comment dire, que j'ai laissées en arrière, sur lesquelles j'étais négligent. Je reviens à Dieu de tout mon cœur. Et à ce moment-là, il est dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mais beaucoup de gens attendent que Christ les éclaire. Mais il ne se relève pas d'entre les morts. Et il y a un ordre de Dieu, hein. Bibliquement, il y a un ordre. D'abord, je dois me relever et de dire, voilà, Ces choses-là, elles ont captivé ma vie. Elles ont pris le dessus dans mon cœur. Et Christ est reparti, je l'ai mis en arrière, au second plan dans ma vie. Et désormais, je veux le remettre à sa place, rétablir le culte à Dieu dans ma vie. C'est ces choses-là, eh bien, qui ont détrôné Christ de ma vie, je les mets de côté pour donner la place à Christ, la première place. Et c'est très important, vous savez. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut dire, ben voilà, peut-être qu'un jour Dieu me ramènera, peut-être qu'un jour les choses seront différentes. Mais nous attendons souvent et Dieu attend. Alors je vais vous dire, si vous avez rendez-vous avec quelqu'un à tel endroit et que vous vous êtes mal exprimé, par exemple, c'est dans une rue, il y a à Paris des rues et des boulevards. Et des rues qui portent un nom et le boulevard porte le même nom. Ah, j'ai appris ça un jour. Et alors, vous avez rendez-vous dans la rue une telle et la personne vous attend dans le boulevard un tel. C'est le même nom, hein. Et vous êtes trompé de simplement rue et boulevard. Ça suffit pas, hein. Et alors, vous attendez chacun d'un côté. Et alors, vous pouvez attendre longtemps, hein. Si vous ne faites pas fonctionner le téléphone, vous dites, alors, je t'attends. Mais la personne vous dit, mais je t'attends aussi. Alors, mais où tu m'attends? Eh bien, là, devant le... Ah non, mais moi, je t'avais dit, c'était à tel endroit. Voilà, vous êtes mis d'accord. Mais alors, dans la vie chrétienne, c'est comme cela. Nous attendons Dieu et Dieu nous attend, et pas au même endroit. Et celui qui doit attendre, c'est Dieu, c'est pas nous. Dieu attend que nous fassions quelque chose et nous, nous devons le faire. Alors, quand Dieu dit dans sa parole, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, alors nous devons le faire. Il y a des choses que nous devons faire. Si nous ne les faisons pas, alors nous sommes dans la désobéissance. Et nous allons, je peux vous dire, dans cette désobéissance, on peut être aujourd'hui, et je vais vous dire, vous y serez demain, et vous y serez après-demain, et vous y serez l'année prochaine, vous y serez dans 10 ans, vous y serez dans 100 ans si vous avez 100 ans, et dans 1000 ans si vous avez 1000 ans, et vous attendrez toujours la même chose. Elle ne se réalisera pas parce que vous attendez au mauvais endroit et vous attendez pas selon les règles. C'est alors il y a des personnes qui attendent et ils attendent la volonté de Dieu. Alors ça nous donne bonne conscience d'attendre. Mais en fait, celui qui attend, c'est Dieu, c'est pas nous. Et il attend que nous marchions dans les règles. Et il y a un moment où on prend cette décision et on dit oui, je veux marcher de nouveau, reprendre le bon chemin. Et alors, nous devons faire la liste des choses qui ne vont pas et des choses à mettre en règle. Et nous disons, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On ouvre sa parole et il nous dit, voilà, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Et ça ne va pas. Parfois, eh bien, on doit s'arrêter un jour ou 2 jours ou 3 jours, hein. Mettez du temps à part. Et dites, Seigneur, éclaire-moi, ouvre mon cœur, ouvre mes pensées, montre-moi ce qui ne va pas, et je vais le mettre en règle. Et je peux vous dire, il y a eu un jour où j'ai dû le faire, hein. Ma vie, même si elle était morale en tant qu'un converti, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas très droites. Et même si le sang de Jésus-Christ a coulé pour effacer mes péchés, néanmoins, à un certain moment, j'ai écrit des lettres où j'ai demandé pardon à des gens, où j'ai remboursé de l'argent, où j'ai fait des choses. Parce qu'à chaque fois que je priais, Satan venait me dire, mais tu es hypocrite, va. Regarde ce que tu as fait. Et regarde ce que tu as fait. Mais c'était avant ma conversion. Alors je me disais, mais le sang de Jésus-Christ a effacé tous mes péchés. Et c'est vrai. Mais je n'avais pas mis en règle les choses avec les gens. Alors, j'ai mis des choses en règle. J'ai écrit des lettres et j'ai remboursé de l'argent parce que je devais de l'argent que je n'avais pas remboursé. Et j'ai fait pas mal de démarches où j'ai. Et plus jamais Satan est venu me dire: Ah, mais tu as fait ça avant ta conversion. Parce que tout ça, ça a été réglé d'une manière définitive. Et c'est. Il n'y avait plus. Satan n'avait plus de terrain dans ma vie pour m'accuser sur ces questions-là. Et on met sa vie en règle avec Dieu. On demande à Dieu de nous éclairer, de nous montrer. Donc, je le répète, hein, c'est une première démarche. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, on a confessé nos péchés et on a attendu que nos péchés soient effacés. Quand on veut revenir à Dieu, on fait exactement la même chose. Ce n'est pas une autre conversion, parce que quand on est né de nouveau, on est né de nouveau à la famille de Dieu d'une manière définitive, complète, on n'a pas à y revenir. Mais quand on veut revenir à Dieu, eh bien, on doit suivre le même chemin et on doit demander pardon à Dieu. Et on doit revenir à Dieu. On doit revenir aux choses que l'on a abandonnées. Mais les mauvaises habitudes sont prises. Et il faut vaincre des mauvaises habitudes. Combien c'est facile quand nous nous convertissons pour venir à Dieu. Mais quand nous devons revenir à Dieu, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il faut vaincre des mauvaises habitudes, des mauvaises tendances. Et revenir à Dieu, eh bien, commence par une confession des péchés, par une mise en règle, et une mise en règle scrupuleuse. On fait attention. Et bon, un jour, voilà, dans la pratique, vous avez mis en règle. Mais plus tard, Dieu vous montre une autre chose qu'il faut mettre en règle. Parce que votre maturité, vous avez grandi, vous êtes allé plus loin, mais au départ, vous n'aviez pas suffisamment de maturité pour mettre cette chose-là en règle. Et plus tard, Dieu vous la révèle. Mais on marche avec Dieu, on avance, on demande pardon pour les choses qui doivent être mises en règle. Et c'est, comme je vous ai dit, c'est comme pour la conversion. Et on demande au sang de Jésus-Christ, à Jésus-Christ de nous laver de nos péchés, de nos mauvaises habitudes, de mettre en nous un esprit nouveau, un cœur nouveau, une nouvelle pensée, une nouvelle manière de faire. C'est un malheur que les chrétiens ne reviennent pas suffisamment. C'est quand David est tombé, il était, hein, le roi David, il était l'homme selon le cœur de Dieu, et un jour il est tombé. Il est tombé dans un péché grave. Et un péché qu'il a toléré pendant des années, parce qu'il a mis sa vie en règle au moins 2 ans, si ce n'est pas 3 ans après être tombé dans le péché. Donc il a bien endurci son cœur par rapport à Dieu. Mais il a écrit le psaume 51, qui est une prière pour revenir à Dieu. Et dans ce psaume 51, il est dit: Crée en moi un cœur pur. Renouvelle un esprit bien disposé, qu'un esprit de bonne volonté m'anime. C'est-à-dire que ce cœur était tellement endurci qu'il avait besoin que Dieu travaille dans ce cœur. Et quant on revient à Dieu, eh bien, il y a parfois un temps de travail où Dieu est obligé de briser cet endurcissement, ces mauvaises habitudes, ces mauvaises tendances, ces choses qui ne vont pas. Et on dit: Seigneur, va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Brise tout ce qui doit être brisé. Je veux vraiment revenir à toi. Je ne veux pas tolérer quoi que ce soit dans ma vie qui m'éloigne de toi. Quelque chose qui cause une ombre entre toi et moi. C'est dans ce sérieux-là que l'on veut que l'on montre que l'on revient vraiment à Dieu. Après, il y a des personnes qui reviennent à Dieu, et bien, Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis un peu oublié, j'ai fait des choses. Mais ce sont des retours qui sont trop superficiels. On ne va pas jusqu'au fond de la question. C'est quand on revient à Dieu, parfois ça prend du temps. Et c'est vraiment, on prend le temps de revenir complètement. Et c'est très important de passer ce temps parce que. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est-à-dire, ouvre les yeux, comprends la situation dans laquelle tu es. Tu es tombé, tu es allé loin en arrière, tu as méprisé des choses saintes, des choses précieuses, tu les as mises de côté, tu as même foulé aux pieds des choses qui étaient vraiment importante. Et il s'agit de revenir à Dieu. C'est donc on ouvre les yeux, on dit je veux voir clair sur ce qui ne va pas. C'est je me réveille. Donc le réveil, c'est nous qui nous réveillons. Et on n'attend pas que Dieu nous réveille, parce que Dieu ne nous réveillera pas. Mais on se réveille et on dit, je veux voir clair sur ce qui ne va pas. Et j'abandonne ce qui ne va pas. Je renonce à ces choses-là. Je veux marcher avec Dieu. Et relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont morts et il y a ceux qui sont vivants. Il y a ceux qui sont morts, ce sont ceux qui sont perdus. Quand nous naissons de nouveau, nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est nous étions morts dans nos péchés, dans nos fautes, c'est Paul qui le dit dans cet épître aux Éphésiens. Donc cette mort, c'est le monde. Ce sont ceux qui vivent dans le monde. C'est relève-toi d'entre les morts, c'est-à-dire tu vis comme le monde. Tu n'es pas différent des gens du monde. Si tu apprends quelqu'un du monde apprend que tu es chrétien, il dit, ah bon, tu es chrétien? Ah bon, je n'avais jamais remarqué. Parce qu'on s'est tellement identifié parfois avec le monde que dire que, ah oui, mais je suis une nouvelle créature, moi. Mais non, non, tu fais les mêmes choses que nous, hein. Tu penses exactement comme nous. Il n'y a pas de différence. C'est relève-toi d'entre les morts, c'est-à-dire quitte ta manière de vivre du monde. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Il y a un processus qui précède le moment où Dieu nous éclaire. Il illumine nos yeux. Il nous montre les choses. Alors, nous, on voit certaines choses, mais on ne voit pas tout. Et Dieu nous montre davantage. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On s'approche de Dieu et on demande à Dieu de vraiment changer nos cœurs et nos pensées et notre manière d'être. C'est nos préjugés, tout ce qui s'est accumulé. Et puis, un jour, eh bien, nous sommes prêts pour une rencontre. C'est ce qui est dit ici, hein. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il y a la plénitude du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit ne remplit pas quelque chose d'impur, jamais. Il ne peut pas y avoir de mélange entre le Saint-Esprit et une certaine vie relâchée. La vie chrétienne doit être propre, elle doit être pure. Et à partir de ce moment-là, il y a la plénitude de l'Esprit. Ça ne veut pas dire que nous sommes de super chrétiens dès le départ. Mais nous sommes prêts à recevoir cette plénitude du Saint-Esprit. Je me rappelle ma propre expérience. C'est vrai que un jour, on rend témoignage comment Jésus-Christ est devenu notre Sauveur, comment nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Mais on peut rendre aussi témoignage de comment un jour le Saint-Esprit est venu remplir notre vie, comment il a pris la première place. Il a mis Christ à la première place. Je me rappelle cette période où je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a après la vie chrétienne? Est-ce que ma vie chrétienne est toujours de vivoter à un niveau inférieur et ne jamais être satisfait de ma vie de prière, de ma lecture de la Bible, de mon témoignage? Est-ce que je dois essayer de convaincre les gens en faisant le forcing sur eux pour qu'ils puissent être sauvés? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Je me posais énormément de questions. Il y avait déjà presque 4 ans que j'étais converti. Et il y avait des choses que je ne savais pas. Pourtant, j'avais fait l'Institut biblique. Les gens attendaient que j'apporte quelque chose. Et je me sentais vide, complètement vide, incapable de quoi que ce soit. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas pour cette vie-là que tu m'as sauvé et que je suis né de nouveau. Et je dis, ben, il va falloir que je passe du temps à chercher sérieusement les choses. Alors j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien mettre une journée à part pour jeûner et prier. Mais je vivais dans une famille, hein, chez un pasteur, hein. Donc je ne pouvais pas mettre cette journée à part comme ça. parce que je ne voulais pas dire, ben, vous savez, je vais mettre une journée à part pour jeûner et prier. Vous savez, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc, je ne voulais pas le dire à tout le monde. Et alors, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien mettre cette vie, journée à part. Mais dans la semaine, le pasteur m'a dit, tu sais, on est invité à un mariage et les gens ne savent même pas que tu existes. Alors, ils t'ont pas invité. Et ben, j'ai dit, ben, tant pis, hein, je reste. Et pour moi, c'était la réponse à ma prière. Et j'ai passé une journée dans le jeûne et la prière pour chercher la face de Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu voulait, où était la solution, dans quelle direction. Personne ne m'avait rien dit. Et j'avais pris pour lecture, pour cette journée, l'Épître aux Philippiens. Et le Seigneur m'a donné un verset. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Voilà. C'était le verset que j'ai obtenu dans cette journée de prière. Mais j'ai dit, mais Seigneur, tu me dis ce verset, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment l'appliquer à ma vie. C'est comme si, je me suis dit à ce moment-là, c'est comme si on me donne de la nourriture dans un récipient qui est brûlant et il n'y a pas de poignée, je ne sais pas comment l'attraper. Alors j'aurais bien aimé qu'on me donne une poignée pour attraper ce verset. Mais bon, après, avec les années, j'ai compris que c'était vraiment ce que le Seigneur voulait me dire. Et quelques mois plus tard, peut-être un mois ou peut-être 2 mois plus tard, il y a un pasteur, on était dans une réunion pastorale. Et bon, réunion pastorale, c'est des réunions où les gens parlent beaucoup, hein. Et alors, c'était un grand brouhaha de voix. Et puis, à un moment, il y a une personne, un pasteur, qui a dit, je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Et puis, hop, tout ça, c'est parti dans un grand brouhaha. On n'a plus rien entendu de ce qu'il a dit. Mais au fond de moi-même, il y a une petite voix qui me disait, c'est lui qui va te dire ce que tu recherches. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, qu'est-ce que le Seigneur vous a montré? Et il m'a expliqué ce qu'était la plénitude de l'esprit. Et au fur et à mesure qu'il me l'expliquait, je l'ai reçu. Et j'ai brusquement senti que ma vie était différente. Il y avait quelque chose d'autre. Il m'a dit, il faut que tu mettes ta vie en règle avec le Seigneur. Il faut que tu demandes pardon pour chaque chose, chaque détail où le Saint-Esprit met le doigt. S'il dit ça, c'est un péché, mets-le en règle instantanément. Abandonne complètement ce qui est. Et puis, abandonne aussi le contrôle de ta vie. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Et il a utilisé une expression que j'ai toujours gardée et que je transmets à chaque fois que je parle de ces choses. Il a dit, dans ton cœur, il y a un trône. Et il faut mettre Christ sur le trône de ton cœur. C'est lui qui règne sur ton cœur. Et alors, à ce moment-là, en même temps qu'il me l'a dit, ma vie, je l'avais mise en règle déjà depuis des mois. Hein. J'étais très méticuleux. J'avais envoyé des lettres, j'avais tout fait en règle. Hein. Et puis, quand il a dit, il faut mettre sur le trône, j'ai dit, Seigneur Jésus, règne sur ma vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes plans, mais tes plans. Non pas moi, mais toi. Je te suis, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, où tu veux. C'est pour faire ta volonté. Que ce soit pour la vie, que ce soit pour la mort, que ce soit pour quoi que ce soit, c'est toi qui règnes dans mon cœur, qui prends la première place dans ma vie. Et c'est comme cela que j'ai découvert cette plénitude de l'esprit. Oh, je n'ai pas ressenti les choses tout de suite, mais après, ben, les choses étaient différentes. Même quand je rendais mon témoignage, quand je parlais aux gens, eh bien, il y avait quelque chose de différent. Je disais les mêmes paroles, les mêmes mots, mais les cœurs étaient touchés différemment. Parce que le Seigneur Jésus régnait sur mon cœur. Il prenait la première place et il me donnait son Saint-Esprit. Il n'y avait rien qui faisait obstacle au Saint-Esprit. Et puis, il est arrivé de perdre, hein? Parce que si on ne peut pas perdre son salut, la plénitude de l'Esprit peut se perdre. Mais c'est souvent par un acte de désobéissance où on reprend l'autorité dans notre vie. Et il faut remettre Christ sur le trône de votre vie. Et moi, eh bien, je suis à ses pieds. Et je suis à genoux à ses pieds. Et je l'adore. C'est lui qui prend la première place. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui doit être le Tout-Puissant dans notre vie. Et je peux vous dire, c'est la vie chrétienne, elle est totalement changée. Parce que ce jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu dans son Église, dans l'Église de Dieu. Et il est venu dans le cœur de chaque chrétien. Chaque personne née de nouveau a le Saint-Esprit. Mais toute personne ne donne pas la place au Saint-Esprit qui devrait être donné. C'est Christ ne règne pas dans les cœurs. Et je peux dire, et il faudrait même le dire avec larmes, le Seigneur Jésus ne règne pas toujours dans son Église. Il a donné sa vie pour son Église. Et malheureusement, ce n'est pas Christ qui règne dans l'Église. Beaucoup de choses, hein. On peut faire régner beaucoup de choses, mais pas Christ. Et c'est un malheur que Christ n'ait pas toute la gloire dans son Église. Pourtant, il a donné sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour vous, pour que vous puissiez être sauvés, pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Et cette vie qu'il a rachetée, eh bien, par un acte de volonté, on dit: Seigneur Jésus, prends ma vie, domine-la, dirige-la. Et je vais vous dire. Et Satan est en train de vous dire: mais tu ne pourras plus faire ce que tu veux, hein. Tu n'auras plus ceci, tu n'auras plus ça, tu n'auras plus ça, tu n'auras plus ça. C'est, dans une certaine mesure, c'est la vérité. Mais comme Satan est un menteur, il essaye toujours de vous tromper. Dieu ne nous demande pas de renoncer à certaines choses pour nous priver, mais pour nous donner de meilleures choses. Nous ne sommes pas privés, nous sommes enrichis. C'est les choses que nous abandonnons, parce qu'il faut les abandonner. Eh bien, ce sont des choses qui nous empêchent de vivre avec Dieu et de marcher avec lui. Ces choses-là, elles sont mauvaises parce qu'elles nous privent du meilleur. Je ne sais pas, moi, j'ai eu des enfants, hein? J'ai eu trois. C'était une grande bénédiction pour moi. Ils ont toujours été une grande bénédiction. Et alors, mes enfants, il y en a un, voilà, il vient et me dit: oh papa, tu sais, je t'aime beaucoup. Désormais, quand tu vas dire quelque chose, je vais le faire tout de suite. Tout ce que tu. Il n'y a pas de problème. À l'école, je vais travailler. Je vais vraiment maintenant, je vais me donner à fond. Alors je dis: bon, maintenant, à partir de ce moment-là, ton Lego, hein, à la poubelle. Hein. C'est à partir de maintenant, t'es ceci, c'est. Il n'y aura plus de. Tu vas. Vous croyez que un être humain normal, devant la bonne volonté de son enfant, il va être aussi méchant que ça? À plus forte raison, notre Dieu. Quand on lui remet notre vie, c'est pas pour nous priver, c'est pas pour nous frustrer, c'est pas pour nous accabler, c'est pas pour nous être un tyran vis-à-vis de nous. On ne place pas Dieu comme roi de notre vie, le Seigneur Jésus-Christ sur le trône de notre vie, pour qu'il nous tyrannise. Pas du tout. C'est pour avoir une vie meilleure. Une vie plus efficace, une vie dans laquelle où on retrouve enfin l'équilibre qui a été perdu. Un jour au jardin d'Éden, l'homme a perdu la relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Mais à partir du. Parce que c'était un acte d'indépendance. Il a fait ses propres choix. Je ne veux pas rentrer dans les détails là-dessus, hein, parce que le temps tourne maintenant. Mais il a, par cet acte, il a dominé sa vie. Mais par un autre acte, on accepte que Dieu domine dans notre vie et qu'il prenne la place dans notre vie, la première place. Ce n'est plus moi, c'est Paul qui le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis néanmoins dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et ce que les gens doivent voir en nous, c'est Christ. Paul pouvait dire: je connais un homme en Christ. Les gens doivent voir Christ vivant en nous. S'il y a la bonne odeur de Christ, il y a la présence de Christ. Il y a des personnes, je me rappelle, j'avais un frère, il est décédé déjà depuis des années, hein, bien bien longtemps. Il est mort très 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 jeune. Mais quand on voyait, c'était l'humilité même. Ah, oh, vous aviez de l'humilité devant vous, hein. Il n'avait jamais. Sa voix dépassait ce niveau-là. Il ne pouvait pas parler à une voix, dire: oui, c'est moi qui ai raison. Hein. Non, c'est comme ça. Jamais. Il ne pouvait pas parler comme ça. C'était impossible. Il y avait tellement d'humilité que sa voix, c'était une voix douce. c'était la voix de Christ. C'était pas sa voix, lui. Je l'ai pas rencontré souvent, mais c'était vraiment quelqu'un qui était rempli de l'humilité de Christ. Parce qu'une humilité comme ça ne se trouve pas chez un être humain. C'est pas possible. Il faut que ce soit Christ. Et après, c'est cet amour. Cet amour qui se dépense, qui se donne pour les âmes perdues, qui s'oublie, qui oublie, qui... Tout. Il y a des âmes perdues dans ce monde, et qui prient, et qui intercèdent, et qui luttent. Ce n'est plus moi, c'est Christ. Et vous savez, il y a un bonheur, et une gloire, et quelque chose de si merveilleux dans la vie remplie de Christ, que tout ce que Satan peut proposer, à côté, c'est rien du tout. C'est rien. C'est une immense tromperie, parce que nous avons le meilleur. Au-delà de toute imagination, toute intelligence, toute compréhension humaine, nous avons ce qu'il y a de meilleur. Et Satan essaye toujours de nous priver de ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Mais nous, eh bien, on dit non. Je veux le meilleur. Je veux gagner. Je veux aller jusqu'au bout. Et Satan peut dire ce qu'il veut, hein. Et il peut essayer de nous décourager et dire oui, mais ce sera difficile, mais il y a ceci, mais il y a ça. Oubliez toutes ces paroles-là. Si c'est difficile, eh bien, ce sera difficile. Et si ce n'est pas difficile, ce ne sera pas difficile. Mais il faut aller jusqu'au bout. Et il faut vouloir marcher avec Dieu et venir à Dieu et que Christ prenne la première place dans votre vie. C'est cela le plus important. Mais je peux vous dire, ça n'arrivera jamais à votre insu. Ça n'arrivera jamais sans votre volonté. C'est vous l'aurez parce que vous l'aurez voulu. Et vous l'aurez voulu vraiment. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et je peux vous dire, il faut de la violence contre soi-même, hein, contre son petit ego, son petit moi. Et puis ça fait mal, hein, vous savez, on est douloureux, hein. C'est pas. Et puis, mais on se traite durement. Paul disait, je traite durement mon corps. Avoir prêché aux autres, je ne veux pas être rejeté. C'est dur, hein? C'est pas facile. Mais on se dit, oh, j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Et c'est comme cela. Quand on est aussi déterminé que cela, eh bien que le Seigneur nous accorde, nous donne ce que nous avons demandé. Mais il faut le vouloir vraiment. Parce que Dieu ne donne pas les choses à ceux qui veulent à moitié. Il faut vouloir vraiment. Et alors là, oui, on l'a. Voilà. Si quelqu'un a des questions à poser, eh bien, il peut me voir après la réunion.